Matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Franz-Olivier Gisbert est l'esprit libre de ce jeudi comme chaque jeudi. Bonjour Franz.
Bonjour David.
Ah, ça fait plaisir, vous avez du bonheur dans la voix.
Ah bah oui, forcément.
Ça veut dire que vous êtes content de faire Marseille-Paris en TGV pour nous rejoindre chaque semaine.
Oui, oui.
On va parler pour commencer de la France bureaucratique.
J'adore le train.
Ah bah si, vous êtes plusieurs comme ça, aimez le train.
Mais vous êtes souriant ce matin, c'est à cause du droit à l'avortement, non? Dans la Constitution, non?
Non, parce que c'est à cause de mon travail.
Merci pour ce moment, quelle belle unanimité. Mais bon, on va pas se raconter d'histoire. Aucun parti ne remet en question le droit à l'avortement.
Ah, vous êtes lancé tout seul, là.
Vous êtes parti tout seul. Parce que à force de regarder Netflix toute la journée, j'ai l'impression que la classe politique finit par croire qu'on vit aux États-Unis et que Donald Trump va bientôt revenir au pouvoir. Enfin, bon, un détail, Donald Trump n'est pas vraiment contre l'avortement, hein. C'est juste comme ça pour commencer, parce que cette histoire est assez amusante, cette espèce de concert général. C'est dingue. C'est dingue parce que
vous
ça
avez l'impression qu'on se bat contre des moulins à vent, c'est ça.
C'est
que
pas
vous
des moulins à vent, c'est très bien de le faire. Moi, je suis pour l'avortement.
Alors, c'est bien
entendu,
ou c'est pas
je suis
bien
pour
de
le droit à l'avortement.
Faire.
Mais pourquoi le mettre dans la Constitution si personne ne le conteste? C'est tout. Voilà, c'est juste une question. Enfin, pourquoi pas?
On va parler de la bureaucratie, puisque c'est ce qu'on avait prévu de faire. La France, des obligations réglementaires qui vous hérissent le poil. Le Parlement européen a rejeté la visite médicale obligatoire pour conserver son permis de conduire, et ça vous met en joie, vous qui prenez le train.
Absolument. Pourquoi ça me met en joie? Bon, d'abord parce qu'il y a un petit côté discriminatoire contre les vieux, les seniors, comme on dit. Hein. Je vous signale quand même, parce que c'est une statistique importante, les plus de 65% sont responsables de 17% des accidents mortels, alors que les 25-34 ans sont responsables, eux, de 22% des accidents mortels. Donc, vous faites un petit calcul, c'est 5 points de plus chez les jeunes. Donc là, simplement, c'est vrai que en Europe, depuis un certain temps, il y a des pays qui s'intéressent surtout aux seniors, aux anciens, comme on dit. Donc, mais ça relève des parlements nationaux. L'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie, le Danemark, la Finlande. Bon, allez, ils visent les seniors avec des visites médicales obligatoires à partir de 60, 70 ou 75 ans. Mais bon, pourquoi faire ça au niveau européen? Non, mais c'est la question. De quoi je me mêle? Je crois que c'est la question que se pose.
Mais attendez, l'Europe l'a rejeté.
Ben, c'était une bonne idée. Ben, je me réjouis justement.
Pour une fois que l'Europe.
Je
ne,
me réjouis
ne nous pas du règlement.
De l'intelligence des députés européens. 323 contre 270 pour. Ça n'empêche pas peut-être la France, à la France de réfléchir là-dessus. Parce que je pense que il y a évidemment matière à réflexion.
En matière de réglementation, sur le registre des interdictions, un décret vient d'être publié. Il vise à interdire les appellations empruntées à la viande et à l'univers de la charcuterie pour désigner les produits à base de protéines végétales. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une interdiction de plus, mais elle protège le terroir.
Oui, enfin, pas à la radio, enfin pas encore, ce sera dans un deuxième temps. Bon, alors, profitons-en, profitons-en, David. Saucisse végétale, allez, allons-y, rhum steak vegan, allez.
Lardon de soja.
Voilà, profitez-en.
C'est le végétarien qui parle. Hein.
Non, pas du tout. Mais parce que moi, on n'en peut plus de ça. C'est-à-dire, et je dirais, c'est encore le prix de la bêtise, c'est trop gentil d'ailleurs. Bêtise, il faudrait dire le prix de la connerie a été décerné cette année à Gabriel Attal, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui ont signé le décret 2024-144 du 26 février 2024, voilà, qui interdit d'utiliser ce genre de mots. Ça fait plaisir aux paysans, mais ça ne réglera absolument aucun problème. C'est une mesure démagogique, c'est encore une réglementation. Peut-être qu'on va embaucher des fonctionnaires pour vérifier si, effectivement, dans les grandes surfaces, ces mots ne sont pas employés. Enfin, tout ça est absolument grotesque.
Le paradoxe, d'ailleurs, c'est que c'est une demande du monde rural, ou en tout cas des producteurs et des terroirs, qui débouche sur de nouvelles interdictions pour des secteurs qui sont plutôt en pointe et qui vont créer des emplois. C'est-à-dire que les gens qui fabriquent de la viande végétale, qui essayent d'innover dans le domaine des protéines végétales, c'est des marchés pour demain
la
nutrition.
Et en plus, le marché bio, hein, il suffit de lire un peu les journaux, ce que font peut-être pas nos gouvernants, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, on lui met encore un coup sur la tête.
Alors, la tentation de la bureaucratisation est toujours présente. Vous qui avez l'expérience, pourquoi il y a cette tentation permanente du texte? Ça tient à la culture professionnelle de ceux qui nous gouvernent. C'est cette illusion que quand on écrit quelque chose sur un papier et qu'on le publie, on pense qu'il va devenir réalité. Comment vous expliquez-vous la tentation bureaucratique française?
Ben, c'est le sentiment qu'on embauche des bureaucrates pour vérifier nos textes qui sont censés libérer, débureaucratiser. C'est un peu ça qui se passe, déverrouiller. Ce sont les mots d'ailleurs que le Premier ministre a employés. Ce sont des mots très justes. Il faut déverrouiller, il faut débureaucratiser. Mais tout ça, on est d'accord, c'est comme ça qu'on va libérer la croissance. Mais là, vous voyez, ça recommence là. Le gouvernement dit qu'il va s'en prendre aux rentes, au corporatisme, aux professions réglementées. Allez, dans le viseur, c'est quoi? Les pharmaciens. Les pharmaciens, parce qu'il faut développer la vente en ligne, des médicaments, hein, ça veut dire quoi? On a trop de pharmacies en France? Il faut supprimer des pharmacies? Je veux dire, on s'attaque aux pharmaciens, après s'être attaqué aux médecins, après ça. Enfin, tout ça, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter et toujours reprendre cette phrase de Georges Pompidou, j'aimerais l'entendre tout le temps, d'ailleurs, dans la bouche de nos gouvernants, il faut arrêter d'emmerder les Français.
J'ajouterais les commerçants qui, quand même, avec l'avènement d'Internet et d'Amazon, les commerçants qui ont un rôle de service public, on le
bien
dit
sûr,
pas assez, mais d'animation des centres
d'animation,
urbains.
D'animation, c'est formidable, bien sûr, ce qu'ils font les commerçants.
Vous avez des villes qui ont perdu des commerces et aujourd'hui, il y a marqué liquidation
en
location.
Mais oui, qu'est-ce qu'on veut là? On veut fermer les pharmacies?
C'est
d'une
tristesse.
Mais oui, mais c'est quoi ça? Mais tout ça est absolument grotesque. Enfin, évidemment, on est d'accord pour arrêter les rentes, les corporatismes, etc. Mais alors, s'il vous plaît, pitié pour les pharmaciens.
François-Olivier Gisbert, êtes-vous aussi sévère que la presse française quant à l'initiative prise lundi par Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes alliées en Ukraine? Rappelons que le président n'a pas dit « on envoie des troupes en Ukraine », il a dit qu'il faudrait peut-être un jour songer à y réfléchir.
Ouais, je trouve que c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, hein, parce que bon, c'est sûr qu'il y a une mauvaise séquence Macron, le remaniement qui accouche d'une fourmi, le cirque au salon de l'agriculture, bon, et puis maintenant c'est cette polémique. Mais vous voyez, c'est le côté toujours intéressant d'Emmanuel Macron sur certains dossiers, en tout cas, pas toujours, mais c'est son côté trublion transgressif, parce que c'est un vrai sujet. Sur l'Ukraine, l'attitude de l'Occident aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas se cacher, est absolument effrayante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que Poutine commence à s'intéresser à la Moldavie. Et puis demain, ça va être aux Pays-Baltes. Hein. Il va nous dire, ah bah tout, l'Estonie a toujours été... Oui, d'ailleurs, les Pays-Baltes, les Russes les revendiquent. Hein. Je pense que les Allemands seraient quand même mieux fondés, à la limite, à les revendiquer, puisque...
Je vous interromps.
Que Kant, philosophe allemand...
Les pro-russes de Transnistrie ont appelé hier au secours, de façon un peu fantoche, la Russie,
sûr,
parce qu'ils s'estiment persécutés économiquement par la Moldavie. Ouais. Donc là, on a toujours la même méthode. Hein.
Toujours
on
la même
met
méthode.
Quelques
Absolument.
Activistes et ça, ils appellent au secours.
Bon, comparaison n'est pas raison, mais c'était la méthode hitlérienne, souvenez-vous, avec la Tchécoslovaquie, etc. C'est toujours les mêmes méthodes, c'est-à-dire que les tyrans, et dans son cas, on sait très bien, le problème de Poutine, c'est un grand prévaricateur, hein, il a organisé une mafia, c'est certainement l'un des hommes les plus riches du monde, et il a peur de son peuple, et donc il lui donne à manger du rêve, de l'annexion, de la conquête, voilà. Et c'est pour plaire, tout ça, évidemment, était pour plaire aux nationalistes russes. Et bon, ça marche. Bon, il faut bien voir que l'attitude de l'Occident aujourd'hui est effrayante parce que Joe Biden n'a plus la main sur le Congrès américain. C'est Donald Trump qui mène la danse en bloquant l'aide de 60 milliards qui était prévue pour l'Ukraine. Et je pense là-dessus, le président, quand il dit...
C'est le président des Républicains au Congrès qui bloque.
Non, mais là, je parle du président français. On va dire que c'est un peu léger. Peut-être, mais ce n'est pas plus grave que ça, et que, je dirais, ce qui m'a frappé dans cette affaire, c'est plutôt la force du lobby poutiniste en France, les réactions d'une violence extrême contre ces propos, finalement, quasi anodins. De Macron, il y a que Scholz qui les a trouvés dangereux, mais Scholz, il faut bien voir, il est un peu en concurrence avec Macron pour le leadership de l'Europe, et on peut pas dire que les deux, le chancelier et le président français, s'entendent, hélas. Mais je pense que si on veut faire la paix avec la Russie, il faut Et moi, évidemment, je suis partisan qu'on fasse la paix vite avec la Russie. Je pense qu'il faut montrer qu'on est prêt à la guerre. Poutine a décidé que l'Occident était dégénéré, que c'était un ramas de chiffres molles. Si l'on veut que cette guerre s'arrête, je pense qu'il faut montrer les dents. C'est pour ça que une grande partie de la classe politique française, notamment, je pense qu'il faudrait lire et relire L'Art de la guerre de Sun Tzu, un général chinois du 6e siècle avant notre ère. Et lui, c'était pas un pétainiste. Hein. Il expliquait que la vraie stratégie, c'était de vaincre sans combattre. Je cite parce que c'est entre guillemets, vaincre sans combattre. En somme, la guerre, si on veut la faire, eh ben, il faut la préparer militairement, moralement, si on ne veut pas la faire, pardon. La guerre, si on ne veut pas la faire, il faut la préparer militairement et moralement dans nos têtes. Voilà pourquoi, à mon humble avis, on ne peut pas donner tort à notre président dans cette petite affaire.
Je vous lis une citation de Jean-Pierre Chevènement aujourd'hui dans le Figaro. Les Français ont élu Emmanuel Macron comme président, pas Volodymyr Zelensky. En clair, lui, il est très critique, l'ancien ministre de la Défense et de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, sur l'envoi de troupes en Ukraine, qui mettrait à mal la crédibilité de la diplomatie française et qui ferait peser le risque d'une troisième guerre mondiale sur le territoire européen. Les Français n'ont pas élu Emmanuel Macron comme... ils n'ont pas élu Volodymyr Zelensky à la présidence de la République française. Ça vous inspire quoi, ces propos de ce vieux sage qu'est Jean-Pierre Chevènement ?
Vieux sage, je sais pas, parce qu'il a dit beaucoup de bêtises. Il a dit beaucoup de choses intelligentes aussi, hein, parce que moi je l'écoute toujours respectueusement. Bon, on peut pas dire non plus, c'est pas quand même... enfin, il y a eu mieux. Il y a eu peut-être... mais enfin, bon, j'ai beaucoup de respect pour lui, quand même. Bon, n'empêche que... excusez-moi, mais je pense que c'est quand même le vrai sujet. Quand on regarde les choses, honnêtement... ce qu'a dit Macron, c'est un peu comme donner un coup d'arrêt, parce qu'on voit bien avec l'histoire de la Moldavie. Demain, il y aura les Pays-Baltes. Vous savez, l'histoire de si on résume bien, l'histoire de l'Ukraine, c'est quoi? La Russie veut remettre la main sur l'Ukraine sous prétexte qu'elle serait russe, parce que la Russie avait envahi, conquis l'Ukraine, et avait annexé l'Ukraine pendant 2 siècles. Bon. Alors, le jour où elle prend l'Ukraine, elle pourra dire la même chose sur la Pologne. La Pologne aussi, elle était sous la férule russe pendant 2 siècles, donc elle est russe. Et puis, la Moldavie, et puis les Pays-Baltes, oui, ils ont été... Et puis, pourquoi pas l'Allemagne de l'Est aussi, l'Allemagne
et
de
Nice,
l'Est.
Et Nice, et pourquoi,
pourquoi pas.
Pas
Nice aussi.
Nice,
voilà,
il y a beaucoup
entendu.
De Russes à Nice.
Tout ça, si vous voulez, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et donc, ce genre de propos de Jean-Pierre Chevènement, à mon avis, ça donne fin à Poutine. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, je pense que les hommes d'État, et parce que je dirais que Chevènement a souvent parlé comme un homme d'État, ça consiste à dire, parce que, attendez, on va pas faire la guerre à la Russie, mais je répète, Sun Tzu, si on veut pas faire la guerre, il faut se préparer à la guerre. C'est comme ça qu'on évitera la guerre, voyez ? Et donc, il faut savoir de temps en temps montrer les dents, et moi je donne raison sur ce plan à Macron contre Chevènement.
On termine avec Navalny. On l'enterre demain. Sa veuve hier a fustigé autour de Poutine une organisation criminelle, c'est ce que vous venez de dire, en parlant de mafia. La famille a eu du mal à trouver une sépulture et un cimetière qui accueille le défunt. Incroyable. Au final, Navalny sera donc enterré demain à l'est de Moscou, 14h, au cimetière Borisovski. Vous vouliez dire un dernier mot, presque une oraison à Navalny.
Ouais, j'ai d'abord envie de faire mon mea culpa. Parce que on a beaucoup parlé des propos haineux qu'il avait tenus en 2007 contre les Tchétchènes, vous vous souvenez, qui comparaient à des cafards, mais il avait beaucoup évolué. Et faut pas oublier, par exemple, ces derniers temps, ses principaux lieutenants étaient juifs, arméniens, etc. Enfin bon, bref. Et j'ai envie de dire simplement, Navalny, Alexei Navalny, ça n'est pas seulement un martyr qui s'est sacrifié en rentrant dans son pays après une tentative d'empoisonnement par les services de Poutine, pour être emprisonné et finalement tué, puisque à quelques semaines de l'élection présidentielle russe, personne ne doute que l'ordre est venu d'en haut.
Non, il y a des doutes, tout le monde n'est pas d'accord.
Attendez, à chaque fois,
certains disent que les autorités russes ont été surprises de ce qui lui est arrivé.
Les poutinolâtres nous expliquent ça comme ça à chaque fois, souvenez-vous. Boris Nemtsov, le principal grand opposant avant Navalny, vous vous souvenez comment il était tué par une escouade, et les poutinolâtres nous expliquaient, non, c'était des anti-Poutine qui avaient organisé ça, enfin bref, les journalistes, enfin etc. Bon, il n'a pas arrêté de tuer. Et gérer simplement Navalny, on va terminer comme ça. C'est un des grands héros du 21e siècle et je pense qu'il n'a pas fini de hanter les années à venir.
Cher Franz, on se retrouve la semaine prochaine. On va se séparer.
À jeudi prochain.
Toute autre chose avec la musique d'un film qui le 29 février 1940 a remporté 8 Oscars. La musique de ce film réalisé par Victor Fleming avec Vivien Leigh et Clark Gable. Nous la devons à Max Steiner, compositeur illustre de musique de films hollywoodiennes. Je pense que vous aurez tous reconnu. Autant t'en emporte le vent, autant t'en emporte Gisbert.